106.9 Mauricie. Commentaire. Que la Mauricie se lève. Voici Éric Duhaime.
Salut Éric.
Bonjour Catherine.
Bon, ça fait du bien hier hein, que on avait quand même quelques nouvelles encourageantes.
Oui.
Des chiffres encourageants du moins.
Oui, c'est ça, parce que les chiffres, honnêtement, là, depuis le début de la crise, on voit que le Québec, c'est malgré le fait qu'on est quand même l'endroit au Canada, puis même en Amérique du Nord, qui a pris les mesures les plus restrictives, hein, on est parmi les gens qui sont les plus confinés du continent présentement, et malgré ça, le Québec, c'est pratiquement une personne sur deux qui est infectée au Canada, alors que notre poids, c'est moins qu'un sur quatre. Puis au niveau des décès aussi, on est surreprésenté, au niveau des hospitalisations, on est surreprésenté. Mais malgré ça, parce qu'il faut quand même dire qu'au Québec, c'est arrivé après, hein, si vous vous souvenez, les premiers cas sont apparus d'abord en Colombie-Britannique, ensuite à Toronto, puis ensuite c'est arrivé au Québec, hein, on était en arrière, donc il aurait fallu que normalement la vague arrive plus tard, là, mais elle nous frappe de façon beaucoup plus sévère que les autres provinces canadiennes, ça c'est au niveau des chiffres qu'on a depuis le début. Mais hier, ce qu'on a commencé à remarquer, c'est que ce qu'on parle tout le temps d'aplatir la courbe, là, ben là on commence à le voir qu'elle est aplanie un peu, mais... Au-delà de ça, il y a d'autres chiffres aussi que je trouve très intéressants parce qu'au début de la crise, là, ils veulent pas nous donner leurs prédictions. Hein? Ils veulent pas nous dire combien ils prévoient en avoir dans le temps. Il y a d'autres endroits qui le font. Hein? Il y a d'autres provinces. En Colombie-Britannique, c'est très transparent. Là. On voit exactement où le gouvernement s'en va, puis c'est quoi leur, à peu près les estimés pour la prochaine semaine, les deux prochaines semaines.
Mm-hmm.
Au Québec, ils veulent pas nous le dire parce qu'ils veulent pas nous faire peur ou ils veulent pas faire paniquer le monde.
Ouais.
Je sais pas c'est quoi la raison. La même chose pour les personnes qui décèdent. Hein. En Ontario, là, on sait tout des personnes qui décèdent. Là, on sait leur âge, on sait la région où ils sont, on sait tout ça.
Ouais, je sais pas pourquoi. Hein,
Québec, on retient toute cette information-là. On sait un peu pourquoi. Là. C'est parce qu'ils veulent dire que c'est l'ensemble de la population qui est à risque. Puis ils veulent pas que certains groupes d'âge, notamment, ou des régions, prennent trop de liberté. Là. C'est sûr que, tu sais, si présentement, là, ce qu'on sait, là, c'est qu'il y en a deux personnes sur les 22 qui avaient plus de 90 ans.
Ouais.
On sait qu'il y en a au moins 10 à 12 qui ont plus de 80 ans, dans la stat 80-89 ans.
Ouais, mais ça en même temps, on n'apprend rien là-dedans. On le sait que la clientèle la plus à risque, c'est les personnes les plus âgées.
Mais c'est parce que on essaie beaucoup de sensibiliser les jeunes. Si on dit qu'il y a zéro mort, puis il y a même juste une personne qui est passée par les soins intensifs puis qui en est ressortie très bien au bout de 3 jours, dans les personnes de 60 ans et moins, c'est sûr que ça va mettre une pression sur le gouvernement.
C'est
sûr. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils le disent pas. Mais en même temps, moi, dans des situations de crise, je pense que la transparence est toujours la meilleure chose pour tout le monde.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais cela étant dit. Les chiffres qui m'ont rassuré hier, Catherine, bizarrement, c'est pas ceux nécessairement dont on parle partout.
Mm-hmm.
C'est de voir, moi, c'est les pourcentages que j'ai observés. Parce qu'au début de la crise, on nous avait donné un petit peu plus d'informations. Le docteur Arruda disait que dans 85 % des cas, les personnes s'en sortiraient bien, soit asymptomatiques ou des symptômes légers, mais qui pourraient rester chez eux.
Mm-hmm.
Qu'il y aurait à peu près 15 % des gens qui nécessiteraient une hospitalisation et 5 % qui auraient besoin de se ramasser aux soins intensifs.
Oui.
Okay? C'était ça les chiffres de départ. Là, ce qu'on remarque, on est rendu avec un pillage. D'ailleurs, hier, le docteur Arruda le dit, on commence à avoir un échantillon assez large. Quand t'es rendu à pas loin de 3000 personnes qui l'ont, là, ça commence à être significatif. Là. C'est pas comme quand tu en as 50. Là. Et là, ce qu'on voit, c'est que moins de la moitié de ceux qu'on avait estimés qui se ramasseraient à l'hôpital, se ramassent à l'hôpital. Hein, sur les 3000, puis moins de 2,5% nécessitent des soins intensifs. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins... que c'est la moitié moins, en fait, dans les deux cas.
Mm-hmm.
Autant au niveau de l'hospitalisation que des soins intensifs. Et ça, c'est bon parce que on sait qu'au Québec, là, on se le fait dire, là, il y a 6000 places, il y a 6000 lits hein, pour accueillir les gens qui vont être infectés par la COVID-19. Présentement, il y en a juste 192 de ces 6000 places-là qui sont prises. Donc, on est à 3% des lits disponibles pour les gens atteints. Les hôpitaux, en quelque part, là, malgré la crise, n'ont jamais été aussi vides, probablement.
C'est fou, hein?
Là. On parle du système de santé qui va être débordé, mais il n'a probablement jamais été aussi vide de notre vivant.
Ouais,
là.
Ouais.
Et donc, présentement, c'est juste 3%. Puis on a quand même au Québec une courbe qui est assez ascendante, là, comparativement, comme je te disais tantôt, aux autres provinces. Fait que ça veut dire que on peut même si on la planifie moins qu'on pouvait penser, on va être capable de gérer les cas au niveau du système de santé. Parce que depuis le début, là, tout le monde le dit, mais il faut se le répéter pour que tout le monde comprenne. L'objectif, c'est pas d'éliminer le coronavirus. Là. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments. Là. L'objectif, c'est de l'étirer dans le temps. On va avoir autant de cas, mais au lieu de les avoir concentrés en une semaine ou deux, on va essayer d'étirer ça sur un mois ou deux. C'est ça le but.
Oui, exact.
Puis pourquoi? Pour que notre système de santé ait suffisamment de place pour pas qu'on soit obligé de faire comme en Italie puis laisser mourir du monde parce qu'on manque d'équipement. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'étant donné que le taux d'hospitalisation puis le pourcentage qui nécessite des soins intensifs est beaucoup plus bas, ça veut dire qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de monde infecté, puis on pourrait en gérer beaucoup plus au prorata de la population. Fait que il y a quand même des chiffres très encourageants là-dedans.
Ouais.
J'essaie de voir de la lumière.
Non, mais il y en a. Mais c'est le fun que tu nous racontes, parce que oui, c'est important de le dire. Moi, sais-tu, il y a un aspect où je me suis questionnée, c'est sur le nombre de cas négatifs. Ouais. Parce que visiblement, on teste beaucoup de monde, mais on a quand même 49 364 analyses négatives. Et je me suis demandé, ça se peut-tu qu'on en... pas qu'on en teste trop, mais c'est parce que j'ai l'impression que le moindre symptôme, évidemment, est devenu une inquiétude, puis ça, c'est normal. Actuellement, on se regarde tous tousser, puis s'il faut éternuer, tout le monde se regarde du coin de l'œil. Mais ça se peut-tu que... Tu sais, mais je me mets à la place d'une personne hypochondriaque, là, qui a toujours un cancer généralisé aux deux jours. Imagine le stress. Donc, ça se peut-tu qu'on en teste trop? La question, j'ai-tu le droit de la poser?
Oui, tu as le droit de la poser, puis elle est très pertinente, ta question, Catherine, mais en même temps... C'est le temps de la saison, là. Puis j'ai fait du barbecue en fin de semaine, puis le tatache est sorti en chemise dehors, là. Fait que le lendemain, tu sais, j'avais un petit peu mal à la gorge. Là. Ça avait rien à voir avec le coronavirus. c'est le temps de la saison. Les changements de saison, c'est souvent ça, hein, parce qu'on se découvre un peu trop rapidement, puis on a tout hâte que le printemps arrive. Je sais pas, y a-tu neigé chez vous cette nuit?
Oui, il y a neigé, parle-moi-en pas.
Fait que, tu sais, on pensait hier samedi que le printemps est arrivé, mais aujourd'hui, on est deux pieds dans 6 pouces de neige. Mais on est très pressé, tu sais. On aimerait ça que le printemps arrive vite, puis on se déshabille un peu trop vite. Puis c'est le temps. On oublie qu'à tous les ans, c'est à ce temps-ci de l'année qu'on a mal à la gorge, puis qu'on peut faire même un peu de fièvre. Fait que c'est normal que les gens, il y a ça. Puis l'autre affaire aussi que j'ai appris, tu sais, le cerveau humain, c'est fort, là. Il y a des gens qui ont tellement peur du coronavirus que même s'ils l'ont pas pantoute, puis même s'ils ont strictement rien, ils développent les symptômes. C'est-à-dire que ton corps, il te fait réagir comme si tu l'avais tellement t'as peur de l'avoir, puis ton cerveau, il te donne des maladies que t'as pas, ou en tout cas, il envoie des mauvais signaux. Fait que puis les gens qu'on teste aussi, rappelle-toi qu'au début, on était beaucoup plus restrictifs, hein. C'était les gens qui avaient été en voyage ou qui avaient été en contact avec quelqu'un qui l'avait eu. Il y avait un paquet de critères. Puis dans l'écrasante majorité des cas, on disait au monde, restez chez vous, venez pas passer le test. Là, étant donné qu'on a une capacité beaucoup plus grande à tester, ben on permet à des gens qui pensent qu'ils ont des symptômes d'y aller beaucoup plus lousse. On est plus ouvert.
Absolument.
Fait que c'est sûr que le pourcentage, d'ailleurs, si tu as vu le ratio de gens qui sont infectés par rapport à ceux qui le sont pas au niveau des tests est de plus en plus minime.
Exact. Oui.
Donc c'est parce qu'on teste de plus en plus des gens qui sont pas à risque.
Voilà.
Puis c'est normal. Puis en même temps, il y a différents modèles dans sa planète. Là, quand tu regardes en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Suède, tous les pays qui ont décidé de garder leur économie relativement ouverte, là, qui n'ont pas arrêté le monde, qui n'ont pas mis l'économie sur pause, eux, leur stratégie, c'est ça, c'est d'investir beaucoup, beaucoup dans les tests et de confiner seulement soit ceux qui l'ont ou les personnes âgées. Puis d'ailleurs, hier, c'était la première fois dans la conférence de presse que je voyais Legault commencer à parler de comment on va réagir quand on va décider de recommencer à mettre l'économie en marche. J'étais très content aussi de ça. Ça, c'est une autre bonne nouvelle hier.
Absolument.
Là. Ça veut dire que peut-être que dans 2-3 semaines, 1 mois, c'est évident qu'on commence à peut-être voir la lumière au bout du tunnel. Puis il a commencé à parler exactement ce qu'on s'était dit la semaine passée, que ça va y aller graduellement.
C'est ça.
Mais qu'il va ouvrir l'économie. Mais pour les personnes âgées, je veux pas vous faire de peine, là, mais vous autres, ils vont vous confiner. Là. J'ai vu que Marguerite Blais va faire une tournée médiatique aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Moi, je l'ai à 8h45.
C'est ça. Puis ils veulent confiner. Puis ils ont même embauché des gardiens de sécurité pour certaines résidences pour pas que les gens puissent sortir. Parce qu'il y a encore des gens qui comprennent pas les directives. Puis ça, t'étais la première à t'en rendre compte, à m'en parler.
Ben oui, absolument. Mais regarde, tu vois, puis ce matin, on apprenait encore en Ontario, 9 morts dans un foyer pour aînés. Donc, c'est sûr qu'on veut maximiser. On ne veut pas que ça dégénère dans les résidences pour personnes âgées. Je peux comprendre, mais oui, vous avez 70 ans et plus, là, armez-vous de patience, c'est ce que ça veut dire.
Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on va remettre l'économie en marche, mais que les personnes âgées, il va falloir les protéger un petit peu plus longtemps.
Exactement. Salut, Éric, on s'en parle mercredi.
Merci.
OK, bye-bye. Éric Duhaime, les lundis, mercredis, vendredis, 7h50. Éric, qui est notre collègue, bien sûr, du FM 93.